Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes à Paris Comics Expo et nous sommes en compagnie de Bernard Catou. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de Bikini Atoll, qui vient de sortir chez Glénat dans la collection Flesh and Bones. Alors vous êtes, si on peut dire, un habitué de la collection, même si c'est tout nouveau en fait. Vous aviez déjà un précédent album qui était sorti il y a quelques mois, et là Bikini Atoll. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette collection Flesh and Bones, parce que là, Bikini Atoll, c'est rock'n'roll.
En fait, oui. On inaugure cette collection parce qu'elle est née aussi d'une envie commune avec Philippe Horry de chez Glénat et puis et Christophe Beck, moi, Runberg, d'autres dessinateurs, d'avoir envie de faire des histoires, de raconter des histoires comme des graphic novels, mais avec un découpage et une narration très comics. Qui proche des comics américains, et parce qu'on l'a trouvé très efficace, et que ce qu'on raconte aussi, c'est des histoires d'horreur, des histoires fantastiques ou d'exorcisme, et on trouvait que la forme s'y prêtait très bien.
Et surtout, qu'est-ce qui vous plaît dans ça, dans Flesh and Bone? C'est le côté presque no limit.
Bon, de toute façon, moi j'ai été élevé avec les EC Comics, du moins je lisais les EC Comics à la fois. Déjà dans Metal Hurlant, il y en avait certains, et puis aussi après, par la suite, dans Comics USA. Et j'adore Corben, j'adore Jack Davis, Bill Elder et tout ça. Donc faire peur en bande dessinée, c'est un truc qui me tanne depuis longtemps. Faire rire, j'ai essayé, bon, j'y suis plus ou moins arrivé à une époque. Mais faire peur, voilà, on avait envie de faire peur. Et comment faire peur en bande dessinée, c'est pas très facile. Il y avait First Air. À une époque qui faisait ça, mais c'est pas si évident à manier du coup. Et puis Christophe est vraiment un enfant du cinéma B et des films de genre, il adore ça. Et donc il a dit bingo lui dès qu'il a démarré direct. Il avait vraiment envie de faire ce genre d'histoire. Il s'est régalé à le faire. Il avait fait Sarah déjà à une époque. Même Pandemonium, c'est quand même des histoires qui avec des histoires de fantômes. Donc il est versé là-dedans depuis longtemps. Et c'était l'occasion. Et puis moi, j'ai déjà fait du comics plus jeune. J'avais fait déjà des histoires un peu avec un dessin un peu américain. Donc tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, on a dit, allez, on le fait.
Vous avez dit oui avant de connaître l'histoire de Bikini Atoll?
Oui, en fait, je partageais mon atelier avec Christophe Beck, donc on se parle, et pendant qu'il l'écrivait, il l'écrivait pas pour moi à la base, et pendant qu'il l'écrivait, il me racontait, et c'est vrai qu'il y avait des petits trucs comme ça qui faisaient marrer, il me disait, ah ouais, il va y avoir un gamin, c'est un adulte, trisomique, qui répète toujours, et ça énerve tout le monde, et jusqu'à la fin, il va répéter tout le temps les mêmes phrases, et tout ça, et ça c'est une espèce de gimmick. De leitmotiv qui suit toute l'histoire comme ça, et il avait plein de petits éléments comme ça rigolos, et c'est vrai que quand il a cherché un dessinateur, je lui ai dit ouais, je vais faire des essais parce que ça me plaît bien. L'histoire me plaisait déjà avant de la lire, hein, juste parce qu'il m'en avait raconté.
Et du coup, qu'est-ce que vous lui avez présenté comme essai? Plutôt des choses trash ou plutôt des paysages avec les cocotiers?
Il connaît mon travail, il voulait juste savoir si je pouvais rentrer dans cet univers, parce qu'on avait fait Sunlight juste avant, donc il savait comment je dessinais, mais là Sunlight ça se passe au fond d'une mine, et il se demandait ce que ça pourrait donner à ciel ouvert. Mais en plus les pages d'essai que j'ai fait, c'était les premières, et c'est les essais nucléaires, il n'y avait pas grand chose, à part le champignon peut-être, on voit la plage un peu, mais bon, je pense que c'est des essais, mais c'est histoire de faire des essais, quoi. Parce que j'avais pas grand chose, moi j'avais rien à prouver, voilà.
Et du coup, à quel moment est-ce que vous êtes éclaté justement dans Bikini Atoll?
C'est vrai que la présentation de l'île est plus fastidieuse, c'était plus long, beaucoup de décors qu'il fallait être précis. À partir du moment où les gens s'installent et qu'ils commencent à se faire massacrer, et après ça accélère, et là au moment où ça accélérait, là moi j'étais vraiment dans le truc, dans l'histoire, et là je me suis vraiment fait plaisir, quoi. Je me suis fait, là, quand ils se font poursuivre par le monstre et tout ça, je dessinais très vite parce que j'étais aussi dans l'action, en fait j'étais dans l'action, il fallait que ça court, du coup il fallait que je dessine vite, et là c'était vraiment presque jouissif, quoi, de dessiner aussi vite. et je crois que ça se ressent en fait dans le, à la lecture. On a vraiment, je crois qu'on a vraiment tendance à tourner les pages pour vite voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, je faisais pareil, je les dessinais vite pour de la même manière. Donc c'est assez marrant. C'était bien.
Parce que vous aviez carte blanche sur la mise en scène ?
Ah non, non, non. Non, Christophe est très précis. Ah oui, oui. Ah oui. Non, 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 non. Mais la description, elle est simple. Machin attrape machin, il le jette par terre, et il dit ça. Donc c'était pas. J'ai respecté son nombre de cases, ses dialogues. Et après, c'était dans le dessin, il fallait aller assez vite. Mais oui, oui, c'était. J'ai pas. Il m'a pas dit, à partir de là, tu fais ce que tu veux jusqu'à la fin. Non, non, il a même, comme il est avec moi, il y a plein de fois où on fait des allers-retours comme ça, je lui montre, il regarde, il me dit oui, ça serait mieux comme ça, il y a des discussions, bien sûr.
Noir et blanc, c'est, alors la collection est comme ça aussi, mais c'est mieux parce que ça permet justement de passer des histoires d'horreur de façon plus simple et presque d'aller dans des choses ultra trash, comme on n'a pas le rouge du sang notamment.
Alors, le noir et blanc, c'est plus une question de narration. À la lecture, ça se lit vachement mieux, parce que la couleur freine un peu plus la lecture, en fait, pour ce genre de choses. J'avais remarqué ça. Je l'avais remarqué en lisant des mangas, j'avais remarqué en lisant Walking Dead, j'avais remarqué en lisant... Il y a Corben qui a sorti pas mal de bouquins sur Edgar Poe, sur Lovecraft. Ils sont tous en noir et blanc. Et c'est vrai qu'à la lecture... ça se dit super bien, et puis même il arrive à vraiment faire peur qu'avec du noir et blanc. Il n'y a pas besoin d'avoir le rouge de l'hémoglobine. Là, dans Bikini Atoll, quand le monstre massacre la mer, il n'y a pas besoin de sang, quoi. C'est suffisamment gore comme ça. Et même c'est pire, je pense, de ne pas voir la couleur sur ce genre de scène.
Ça permet d'imaginer aussi ce qui est des fois pire.
On laisse un champ assez ouvert sur l'imagination du lecteur. C'est ce que faisait Hugo Pratt avec Corto Maltese ou Tardi avec Les Cris du Peuple, par exemple. Raconter en noir et blanc, ça permet au lecteur d'avoir les éléments de lecture, mais après de faire tout le reste dans son esprit. Mais après, il n'y a pas de mystère. Si les mangas sont en noir et blanc, il doit y avoir une raison. C'est pas que de l'économie, je pense. Je pense que c'est surtout parce que la lecture est beaucoup plus simple en noir et blanc, quoi. C'est ce qu'a compris Adler et Kirkman sur Walking Dead. C'est vrai que ça se lit super bien, Walking Dead. Justement, je pense que c'est dû aussi à ça.
Et une couverture, pour autant, ultra colorée.
Ah oui. Ah ben ça, par contre, la couverture, ça ne fait pas partie de la lecture. La couverture, elle est là pour appeler l'œil du chaland, du lecteur, de la personne qui passe devant. Il faut marquer l'esprit, en fait. Et on a remarqué qu'elle était pas mal retweetée, cette couverture, parce que le dessin était... Voilà. C'est Christophe qui a conçu le dessin. Et ça fonctionne, parce que le requin est trop près de la fille. Et du coup, ça donne un côté presque surréaliste, quoi. On se dit, cette image n'est pas possible. L'île, le requin, la fille, l'image n'est pas possible. Alors du coup, ça attire l'œil, quoi. Bon, après, c'est sûr que une paire de fesses avec un bikini rouge, ça aide pas mal aussi.
Est-ce que vous avez eu envie de sauver quelques personnages au fur et à mesure de la BD ?
Oui, moi, la mère, je voulais pas... Non, mais c'est vrai. À côté de ça, je l'ai massacré d'une façon assez atroce. Mais voilà, pour moi, c'est déjà... C'est des personnages comme ça qui ne méritent pas de mourir, mais c'est le principe du slasher. On s'arrange pour que le lecteur aime le personnage ou l'apprécie, et pour mieux le massacrer. Et c'est vrai que ça marque l'esprit. Je me souviens avoir lu American Psycho là, de Bret Easton Ellis, et je me souviens quand je lisais, il faisait des descriptions d'une fille qu'il a invitée chez lui, il la décrivait comme un ange, quoi. Elle était magnifique et tout, et il la tue d'une façon tellement atroce que ça rend encore plus. Ça marche bien. Il faut faire aimer un personnage pour que quand on le tue, les gens ressentent vraiment de la peine ou de la douleur. Je pense que c'est une technique que Christophe connaît bien, parce qu'il l'a fait avec Sarah, il l'a fait avec pas mal de ses personnages. Ouais.
L'ambiance de Paris Comics Expo ?
Sympa, c'est très sympa. J'ai fait la Japan Expo. J'ai jamais fait le Comic Con. Après, moi j'habite à Albi, donc sur Toulouse, j'amène mon fils au TGS, voilà. Après, ça me fait toujours marrer de voir. Ça me fait marrer. Je trouve ça extraordinaire que les gens puissent se déguiser avec autant de pas de précision, mais d'application, de reproduire des costumes qui sont fabuleux. Il doit y avoir énormément de boulot sur certains costumes. Et voilà, je trouve ça plaisant. Je trouve que c'est une belle image de la jeunesse. Et j'espère que ça durera. Je trouve ça très bon enfant. C'est très sympa. Ouais.
Vous travaillez sur quoi actuellement?
Alors, rien à voir avec le gore. Hein. Je travaille avec Christophe encore, sur le tome 5 de l'aéropostale. C'est sur la vie de Jean Mermoz. Les exploits de Jean Mermoz dans la cordillère des Andes et un peu en Afrique du Nord. Là, c'est plus historique, mais je suis content de le faire parce que Mermoz, c'est particulier par rapport aux autres aviateurs. Il a quand même un côté très aventureux, très, très Corto Maltese qui m'a donné envie de le faire. Ouais. Non, après, ça fait une petite pause, mais je pense que je reviendrai très vite au Flesh and Bones ou un truc comme ça, parce que ça, j'ai pris trop de plaisir pour ne pas en refaire.
Vous êtes le dernier homme sur Terre et vous allez finir vos jours avec un des cinq robots que je vais vous citer. Vous pouvez finir vos jours au choix avec Baymax,
Il est mignon, Baymax.
Wall-E,
Oui.
C3PO, le T800 ou Astro.
Oui, non, je vais prendre le premier là, celui de chez Pixar. Oui, Baymax. Bah oui, en plus déjà il soigne, il est hyper gentil. J'ai adoré, ouais. Oui, Wally, je m'emmerderais. C'est pareil, c'est CPO là. Bon, Terminator, c'est même pas la peine d'en parler. Et le dernier, Astro, non, Astro. Astro, pour moi, c'est un jouet, quoi. Non, celui-là, il est bien, ouais. Il était mignon comme tout. En plus, il fait des gros câlins.